الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فهذا اليوم هو 18 من شهر ربيع الثاني عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في المجلس 45 من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله. Nous sommes le 7 février 2015 et ceci est le 45e cours de l'étude de la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم basé sur le livre de l'imam Ibn Kathir intitulé Les passages ou les chapitres dans la vie du messager. Nous sommes dans le chapitre en relation avec les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons pu entendre quelques noms de certaines des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment sa première femme Khadija radiyallahu anha, de laquelle il a eu tous ses enfants à l'exception de son fils Ibrahim, issu de Maria al-Qibtiyya. Nous avons vu son mariage avec Aisha radiyallahu ta'ala anha. Nous avons vu son mariage avec Saouda et autres. Et nous nous sommes arrêtés sur son mariage sallallahu alayhi wa sallam avec Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha. قال ابن كثير رحمه الله ثم تزوج أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية واسمه حذيفة ويقال سهيل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية وذلك بعد وفاة زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم مرجعه من بدر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa Ummu Salama, qui appartenait à la tribu de Quraysh. Après la mort de son mari Abu Salama, Abdullah ibn Abd al-Asad ibn Hilal ibn Abdullah ibn Makhzoum, à son retour de la bataille de Badr, à la fin de son délai de viduité, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la demanda en mariage, ce qui indique que ceci eut lieu au début de la troisième année de l'Hégire. Après avoir parlé de Hafsa, la fille de Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, qui a épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il l'a répudiée mais il l'a reprise sallallahu alayhi wa sallam, elle resta donc son épouse. On a vu que entre elle et Ummu Salama, qui sont toutes deux citées par Ibn Kathir rahimahullah, il y avait une épouse qui n'a pas été citée dans le livre et qui est Zainab bint Khuzaima, surnommée Ummul Masakin, la mère des pauvres, car elle était généreuse avec les besogneux et les gens dans la difficulté. Et seulement après avoir parlé de Zainab bint Khuzaima, voici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam épouse cette femme connue, Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a épousé cette femme après le décès de son époux. Il a épousé lorsqu'il revenait de la bataille de Badr, radiyallahu ta'ala anis sahabati ajma'in, Ummu Salama. فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَطَبَهَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ أَوَّلُ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَقَدْ كَانَ وَلِيَ عَقْدَهَا عَلَيْهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْنُهَا عُمَرْ كَمَا رَوَاهُ النَّسَائِي. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit que c'est son fils ibn Umar, ou pardon, c'est son fils Umar, le fils de Umm Salama, dont le père est décédé, qui s'est porté tuteur pour sa mère, pour marier sa propre mère, radiyallahu anha. Vous allez voir que Ibn Kathir rahimahullah en réalité cite qu'il y a une divergence à ce sujet. Quel sujet ? Ici nous parlons du mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a épousé Umm Salama au retour de la bataille de Badr, sachant qu'Umm Salama avait perdu son époux. Umm Salama avait un enfant qui s'appelait Umar. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a attendu la fin de sa viduité pour pouvoir la demander en mariage. Puis ici, il est dit que celui qui était tuteur de la femme, car la femme ne peut se marier sans tuteur, sans quoi son mariage serait invalide, était Umar. Et certains savants ont dit qu'ici, il s'agissait de Umar, son fils, c'est-à-dire le fils de Umm Salama. Mais d'autres ont dit que c'était Umar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala an. Ibn Kathir va citer quelques points concernant ce sujet et il dit: rawahu an-nasa'i min tariq Hammad ibn Salamah an Thabit al-Bunani an ibn Umar ibn Abi Salamah an abihi an ummihi wa qad jama'tu juz'an fi dhalika wa bayyantu anna Umar al-maqul lahu fi hadha al-hadith إنما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه كان هو الخاطب لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الواقدي وغيره أن وليها كان ابنها سلمة وهو صحيح إن شاء الله. Selon النسائي, الإمام النسائي est un rapporteur de hadith comme les autres, qui rapporte ce récit d'après Hammad ibn Salama, d'après Thabit al-Bunani, d'après le fils de Umar, fils d'Abu Salama, d'après son père Umar, d'après Umm Salama, donc Umm Salama est celle qui va épouser le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est son fils Umar qui conclura pour elle l'acte de mariage. Or, Ibn Kathir dit: j'ai rassemblé les hadiths relatifs à ce sujet dans un recueil où j'ai démontré que Umar en question dans ce hadith est en réalité Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, puisque c'est lui qui se chargea de demander Umm Salama en mariage pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant à celui qui conclura l'acte de mariage pour Umm Salama, Al-Waqidi notamment affirme qu'il s'agit de son fils Salama. Dans le livre d'Ibn Kathir, vous avez entendu souvent Al-Waqidi a dit, Al-Waqidi a dit. Al-Waqidi, c'est un historien qui s'y connaît dans le domaine de l'histoire et dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que souvent son avis est cité et est pris en compte. Al-Waqidi notamment affirme qu'il s'agit de son fils Salama, ce qui est juste. Donc, tantôt on nous dit que c'est Umar ibn Khattab, tantôt on nous dit que c'est Umar le fils de Umm Salama, et tantôt ici on nous dit que c'est le fils. وقد ذكر الواقدي وغيره أن وليها كان ابنها سلمة. Et tantôt on nous dit que ce n'est pas Umar, mais c'est Salama. Et Allah Azza wa Jalla est plus savant de ce qui est plus juste dans cette question. Wallahu ta'ala a'lam. Si ce n'est que Sheikh Abdel Razak ibn Abd al-Muhsin al-Abbad hafidhahum Allah a dit ici que à la période où Umm Salama a été épousée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son fils Salama était assez âgé et mature pour pouvoir être tuteur de sa mère. Donc il y a une éventualité, une possibilité que ce soit lui, mais Allah Azza wa Jalla est plus savant, wallahu a'lam. Wa qad dhakara annahu sallallahu alayhi wa sallam tazawwajaha bila waliyyin wallahu a'lam. Et d'autres ont cité carrément qu'elle épousa On dit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa Umm Salama sans la présence d'un wali, c'est-à-dire d'un tuteur, mais Allah en est mieux informé que quiconque. قال الواقدي توفيت سنة 69 وقال غيره في خلافة يزيد بن معاوية سنة 62. Donc on nous parle maintenant du moment de sa mort رضي الله تعالى عنها. Il nous dit, Al-Waqidi affirme que Umm Salama est morte en l'an 59. En l'an 59 de l'Hégire. Donc dans la traduction ici, il y a effectivement l'an 59 et c'est bel et bien ce qu'a cité Al-Waqidi rahimahullah. Si ce n'est que dans les versions arabes de ce livre, du livre Al-Fusul, le livre d'Ibn Kathir rahimahullah, on cite 69. Et c'est une erreur. Allahu a'lam de qui vient l'erreur. Et ce qui est juste, c'est que l'imam Al-Waqidi, rahimahullah, a dit que l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Umm Salama, est morte en l'an 59 de l'Hégire. Alors que selon d'autres, sa mort se produisit sous le califat de Yazid ibn Muawiyah en l'an 62 de l'Hégire. Wallahu a'lam. ثم تزوج زينب بنت جحش في سنة 50 في ذي القعدة وقيل سنة 3 وهو ضعيف. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa Zainab bint Jahsh. La traduction est mauvaise car ibnu, ça veut dire en français fils, et ici on parle d'une femme, on aurait dû écrire bint qui veut dire fille. Épousa Zainab bint Jahsh, et ce au mois de Dhul-Qi'dah de l'an 5 de l'Hégire, ou selon un avis peu fondé, en l'an 3. Certains ont dit en l'an 3, d'autres ont dit en l'an 5. Cheikh Abdelrazak al-Abbad, dans le commentaire de ce livre, dit en l'an 4. Wallahu a'lam. وفي صبيحة عرسها نزل الحجاب كما أخرجاه في صحيحين عن أنس رضي الله عنه وأنه حجبه حينئذ وقد كان عمر أنس لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة عشرا فدل على أنه كان قد استكمل 15 سنة والله أعلم. Le lendemain matin de la nuit de noces, c'est-à-dire de la nuit de noces avec son épouse Zainab bint Jahsh رضي الله عنها, fut révélé le verset du hijab. Le verset du hijab, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala légifère aux femmes des croyants, aux femmes croyantes, de couvrir leur corps et de porter le vêtement qui est légiféré par Allah azza wa jal, connu sous le nom du jilbab. Comme le rapportent Al-Bukhari et Muslim dans leur recueil authentique. D'après Anas, qui relate que le messager sallallahu alayhi wa sallam laissa à ce moment-là tomber le rideau entre lui et Anas, afin qu'il ne se retrouve pas en présence de Zainab. Ceci est une parenthèse du traducteur, mais le sens est correct. Effectivement, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Zainab bint Jahsh, il a laissé tomber un rideau entre lui et Anas. Anas était son servant, il vivait auprès de lui sallallahu alayhi wa sallam, mais Anas était pubère et il ne pouvait plus donc être auprès d'elle sans qu'il y ait entre eux un rideau, car le prophète, car Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Al-Ahzab que lorsque les croyants s'adressent aux mères des croyants, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devait y avoir un rideau, il devait y avoir un rideau entre eux. Et dès que le prophète a mis le rideau, dès qu'il mettait un rideau, les gens comprenaient que cette femme qui était derrière le rideau est devenue une épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, à son arrivée à Médine, Anas était âgé de 10 ans, ce qui prouve que lorsque ce verset fut révélé, il avait atteint l'âge adulte, 15 ans. Mais Allah en est mieux informé que quiconque. Et quand est-ce que l'individu considéré religieusement responsable dans la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire qu'il doit s'acquitter de ses devoirs, c'est au moment où il atteint la puberté. Quand est-ce qu'il atteint la puberté? Soit quand il y a apparition des poils au pubis, le bas du ventre, juste au-dessus des parties intimes. S'il n'y a pas ce signe, pour l'homme, la coulée du liquide spermatique avec le ressenti, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, le ressenti, ou avec le, quand il sent quelque chose, s'il n'y a pas ça, alors quand il atteint l'âge de 15 ans, s'ajoute à ça pour la fille les règles, les menstrues. C'est ainsi qu'il est considéré comme religieusement responsable, c'est-à-dire il a l'obligation de jeûner, l'obligation de prier et toutes les obligations légiférées par Allah Azza wa Jal. Mais sachez que, à partir du moment où l'enfant, quand bien même il n'a pas atteint la maturité, fait la distinction entre une femme, si on peut dire, séduisante ou moins, et il connaît les atouts de la femme, et il sait ce que c'est une forme de femme, il n'a plus le droit d'être avec les femmes, comme Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran. On ne doit pas attendre la puberté. La femme doit se voiler devant lui. Et lui ne doit pas rester comme les enfants plus jeunes que lui. À partir du moment où il fait la distinction entre les femmes, il sait ce qu'est une femme. Et ça, bien sûr, varie d'un enfant à un autre. Et à la puberté, ils sont tous égaux. Allah Ta'ala a'lam, c'était une parenthèse, mais elle a sa relation avec le sujet ici. طيب. وقد كان وليها الله سبحانه وتعالى دون الناس. قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. Quant au wali, le tuteur de Zainab, ce fut Allah le Très-Haut, comme le dit Allah Azza wa Jal, traduction du verset: puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser. Ce verset, vous le retrouvez dans Sourate Al-Ahzab, les coalisés. Il fait référence au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va épouser Zainab bint Jahsh, qui était juste avant lui épouse de le compagnon Zayd ibn Haritha radiyallahu ta'ala anhu. Et Zayd s'est séparé d'elle. Puis Allah Azza wa Jal a dit: Zawwajnakaha, nous te la fîmes épouser. Dès que ce verset a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez son épouse et a fait avec elle ce que l'homme fait avec son épouse. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jal l'a mariée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tuteur. Celui qui s'est porté garant, ou celui qui a légiféré tout simplement ceci, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Zainab bint Jahsh radiyallahu anha s'en vantait et disait aux autres épouses du prophète alayhi salatu wassalam qu'elles ont eu besoin de leur tuteur pour se marier, alors que moi c'est Allah qui m'a marié subhanahu wa ta'ala. Wa rawa al-Bukhari fi sahihihi bi sanadin thulathi أنها كانت تفخر على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكهن أهاليكن وزوجني الله في السماء. Par ailleurs, Al-Bukhari rapporte dans son recueil, à travers une chaîne où se trouvent trois narrateurs, que Zainab se vantait devant les autres épouses du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم en disant: vous avez été mariés au prophète par vos familles, alors que moi, j'ai été donné en mariage au prophète par Allah au ciel. Subhanahu wa ta'ala. On peut retirer ici une preuve qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux. Subhanahu wa ta'ala. Et que c'était connu des compagnons, même des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kanat awwala azwaj rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sallama wafatan. Zainab fut la première des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam à s'éteindre, c'est-à-dire de son vivant, c'est-à-dire après sa mort, pardon, afwan, après sa mort. De son vivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu deux épouses, Khadija et Zainab bint Khuzaima, la première Zainab. Ce sont les deux épouses que le prophète a vu mourir, alayhi salatu wassalam. Et toutes les autres vont mourir après lui, alayhi salatu wassalam. La première de ces autres qui va mourir après lui est la deuxième Zainab, Zainab bint Jahsh. قال الواقدي توفيت سنة 20 وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الواقدي, précisant qu'elle mourut en l'an 20 de l'Hégire et que c'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu an qui dirigea la prière funèbre. ثم تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المستلقية وذلك أنه لما غزا قومها في سنة 6 بالماء الذي يقال له المريسيع وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها فاشتراها وأعتقها وتزوجها. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam épousa Juwayriya bint al-Harith, la fille de al-Harith, qui est lui-même le fils de Abi Dirar, qui fait partie des Bani Mustaliq. En effet, lorsque en l'an 6 de l'Hégire, il lança une expédition contre les Bani al-Mustaliq autour d'un point d'eau appelé al-Muraysi', il y a un chapitre consacré à ce sujet, elle fut attribuée lors du partage du butin à Thabit ibn Qais ibn Shammas, qui s'engagea à la libérer contre une somme d'argent. Juwayriya vint alors demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de l'aider à payer le prix de son affranchissement. Il décida de l'acheter à Thabit ibn Qais, puis la libéra avant de l'épouser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, quand il y avait des esclaves, hommes soient-ils ou femmes, il lui arrivait, vous allez voir, il y a un chapitre sur tous les esclaves qu'il a libérés, de les racheter pour les libérer, sallallahu alayhi wa sallam. Ce fut le cas de cette femme, si ce n'est qu'après l'avoir libérée, il s'est marié avec elle, sallallahu alayhi wa sallam, et quel merveilleux époux que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, Allah azza wa jal l'a libérée dans tous les sens du terme. قيل إنها توفيت سنة 50 وقال الواقدي سنة 56. Elle mourut, dit-on, en l'an 50 de l'Hégire, alors que الواقدي avance la date de 56. Wallahu a'lam. Donc vous remarquez ici qu'on se contente plus de lire que de commenter, car c'est la méthodologie du Cheikh Abdelrazzaq hafidhahullah quand il a lu ces passages de ce livre. ثم تزوج صفية بنت حيي ابن أخطب الإسرائيلية الهارونية النضرية ثم الخيبرية رضي الله تعالى عنها وذلك أنه صلى الله عليه وسلم اصطفاها من مغانم خيبر وقد كانت في أوائل سنة 7 فأعتقها وجعل ذلك صداقها. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa Safiya bint Huyay ibn Akhtab, une juive de la descendance de Haroun, membre de la tribu des Banu al-Nadir installée à Khaybar. Parmi les particularités de cette épouse, le fait qu'elle fait partie de la descendance de Haroun. Qui est Haroun? Haroun est un prophète, c'est le frère de Moussa, alayhi salam. Les savants ont dit que cette femme, Safiya bint Huyay, est fille d'un prophète, nièce d'un prophète, épouse d'un prophète. fille, c'est-à-dire son arrière-grand-père, et on remonte jusqu'à l'âge où est venu, le temps où est venu Haroun, c'est Haroun. Nièce, car le frère de Haroun est Moussa. Épouse, car son épouse est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait choisi parmi les captifs de l'expédition de Khaybar qui eut lieu au début de la 7e année de l'Hégire. Puis, il l'avait affranchi, faisant de sa liberté sa dot sallallahu alayhi wa sallam. Donc des fois on voit que le prophète alayhi salat wa salam va épouser une femme qui était captive et il va faire de sa dot sa libération sallallahu alayhi wa sallam. ثم تزوج فلما حلت في اثناء الطريق بنى بها وحجبها فعلموا انها من امهات المؤمنين. Puis Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dit lorsque sur le chemin du retour de l'expédition de Khaybar prit fin son délai de viduité, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam consomma son mariage avec elle. Puis lorsqu'il la préserva des regards derrière un voile, les musulmans surent qu'elle faisait maintenant partie des mères des croyants. Donc ça c'est ce que vous avez entendu. Quand le prophète épouse une femme sallallahu alayhi wa sallam, après l'ordre révélé par Allah de mettre un voile entre elle et les hommes qui s'adressent à elle, le prophète mettait un voile. Et là les gens comprenaient que cette femme est devenue une épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الواقدي توفيت سنة 50 وقال غيره سنة 36 والله أعلم. Selon Al-Waqidi, elle s'éteignit en l'an 50 de l'Hégire, alors que d'autres affirment que sa mort se situe en l'an 36, mais Allah en est mieux informé que quiconque. وفي هذه السنة وقيل في التي قبلها سنة 6 تزوج من أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب ابن أمية بن عبد شمس الأموية. خطبها عليه عمرو بن أمية الضمري وكانت بالحبشة، وذلك حين توفي عنها زوجها عبيد الله ابن جحش، فولي عقدها منه خالد بن سعيد ابن العاص. وقيل النجاشي والصحيح الأول، ولكن أمهرها النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 دينار وجهزها وأرسل بها إليه رضي الله عنها. ابن كثير رحمه الله تعالى continue et dit: la même année, ou selon certains l'année précédente en l'an 6, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam épousa Ummu Habiba du clan des Bani Umayyah, dont le nom est Ramla bintu Abi Sufyan Sakhr ibn Harb ibn Muawiyah ibn Abd Shams al-Umawiyyah. C'est Amr ibn Umayyah al-Damri qui la demanda en mariage pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que Ummu Habiba en Abyssinie, en Éthiopie actuelle, venait de perdre son époux Ubaydullah ibn Jahsh. Khalid ibn Sa'id ibn al-As se chargea de conclure l'acte de mariage au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors à Médine, bien que certains assurent de façon erronée qu'il s'agit du Négus. Le Négus, c'est le roi de l'Éthiopie de l'époque. En réalité, le Négus se chargea, et le Négus n'est pas un prénom, c'est un titre. Tout comme on dirait César ou autre, ce n'est pas un prénom, c'est un titre. En réalité, le Négus se chargea de verser pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la dot de Ummu Habiba fixée à 400 pièces d'or. Puis, il fit préparer son mariage et la fit conduire auprès du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'imam Ibn Kathir va citer une divergence au sujet de cette épouse justement. فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارِ الْيَمَانِي عَنْ أَبِي زُمَيْل سِمَاكِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسِ أن أبا سفيان لما أسلم قال في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها الحديث فقد استغرب ذلك من مسلم رحمه الله كيف لم يتنبه لهذا لأن أبا سفيان إنما أسلم ليلة الفتح وقد كانت بعد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بسنة وأكثر وهذا مما لا خلاف فيه وقد أشكل هذا على كثير من العلماء. مسلم rapporte dans son recueil d'après Ikrima ibn Ammar al-Yamani, d'après Abu Zumail Simak ibn al-Walid, d'après Ibn al-Abbas qu'Abu Sufyan, après avoir embrassé l'islam, dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: je dispose de la plus belle des Arabes, Ummu Habiba, ma fille, que je veux te donner en mariage. Donc on voit ici que c'est Abu Sufyan radiyallahu anhu qui se convertit à l'islam et qui propose au prophète sallallahu alayhi wa sallam sa fille qu'il qualifie comme étant la plus belle des filles arabes. Or il est étonnant que Muslim n'ait pas relevé une contradiction dans ce récit. En effet, Abu Sufyan ne s'est converti que la nuit précédant la conquête de la Mecque, c'est-à-dire au minimum un an après le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Ummu Habiba. Vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas Ummu Habiba dont a parlé Abu Sufyan, mais c'est sa sœur. Et c'est pour cela que Ibn Kathir rahimahullah dit qu'il était, il est étonnant que Muslim n'ait pas relevé une contradiction dans ce récit. Muslim a rapporté ce récit alors qu'on sait, il rapporte ce récit alors qu'on sait très bien que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ici Ibn Kathir rahimahullah ta'ala veut attirer notre attention sur un point important, c'est le fait que Ummu Habiba a été épousée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien avant en réalité. Vous allez voir que l'erreur, elle provient du hadith. Dans le hadith, on ne parle pas de Ummu Habiba. C'est peut-être une erreur du rapporteur, Wallahu alam, comme l'a dit Sheikh Abd al-Razak al-Abbad, mais on parle de sa sœur qui se nomme Azza. Donc ici, le prophète aura épousé deux sœurs, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, cette apparente contradiction pose un problème à nombre de savants de l'islam. Ibn Hazm prétendit tout simplement que ce hadith était inventé. Mawdou', ça veut dire inventé. En assurant que Ikrima ibn Ammar n'était pas digne de foi, ce que nul n'affirma avant lui ou après lui. Quant à Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi, il expliqua qu'Abu Sufyan voulut simplement renouveler l'acte de mariage afin que le premier mariage conclu sans son autorisation cesse d'être une atteinte à son honneur. Ou bien, il crut que par sa conversion, le contrat de mariage de sa fille devenait caduc. Cet avis de Muhammad ibn Tahir fut partagé par Abu Amr ibn Salah et Abu Zakariya al-Nawawi dans son charh, dans son commentaire du recueil de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a cité quelques paroles et quelques avis de ses savants. Il dit: فَأَمَّا ابْنُ حَزْمٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ وَضَعَفَ عِكْرِمَةَ ابْنَ عَمَّارٍ وَلَمْ يَقُلْ هَذَا أَحَدٌ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ. Quant à Ibn Hazm rahimahullah, il a eu un avis que personne d'autre que lui n'a eu avant lui. En fait, chacun a essayé de trouver une solution à ce qui leur a posé problème. Quant à Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi, donc c'est ce qui a été cité ici, il expliqua qu'Abu Sufyan voulut simplement renouveler l'acte de mariage afin que le premier mariage conclu sans son autorisation cesse d'être une atteinte à son honneur. Donc chacun essaie de trouver une solution à cette problématique, et vous allez voir à la fin ce que va dire Ibn Kathir. وَهَذَا بَعِيدٌ جِدًّا فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَقُلْ عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبُ وَأَجْمَلُهُ إِذْ قَدْ رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ سَنَةٍ فَأَكْثَرْ. Il dit, or cette explication est très peu convaincante, car dans ce cas, Abu Sufyan n'aurait pas dit « Je dispose de la plus belle des Arabes ». Pourquoi ? En effet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était alors marié à elle depuis au minimum un an. Donc il n'a pas besoin ici de venir un an après, si vraiment il veut la marier un an après pour, on va dire, renouveler le contrat, car au cours du premier contrat, il n'était pas d'accord. Si vraiment on soutient cette thèse, alors pourquoi il vient dire au prophète, alayhi salatu wassalam, je dispose de la plus belle des Arabes, alors que le prophète est déjà marié avec elle depuis un an. Donc ici, on comprend qu'on ne parle pas d'elle. C'est la seule vraie solution qu'on peut trouver au problème. Il est également très improbable qu'Abu Sufyan ait cru que sa conversion rendait caduque le mariage de sa fille. En réalité, constatant l'honneur que conférait le fait d'avoir pour gendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Sufyan voulut lui donner en mariage son autre fille, Azza. وَتَوَهُمُ فَسْخِ نِكَاحِهَا بِإِسْلَامِهِ بَعِيدٌ جِدًّا وَصَحِيحُ فِي هَذَا أن أبا سفيان لما رأى صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم له شرفا أحب أن يزوجه ابنته الأخرى وهي عزة. Et c'est le meilleur avis, et c'est celui qui est retenu par Cheikh Abd al-Razzaq quand il explique le livre. Il dit qu'il n'y a pas de doute que c'est ça. Wallahu a'lam. واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة كما أخرجا في الصحيحين عن أم حبيبة أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان قال أو تحبين ذلك قالت نعم. En réalité, نعم. Il céda pour cela de sa sœur Umm Habiba. Ainsi, Al-Bukhari et Muslim rapportent dans leur recueil authentique que Umm Habiba dit: Ô messager d'Allah, épouse ma sœur, la fille d'Abu Sufyan. Il lui demanda: Et tu aimerais cela? Oui, répondit-elle. Selon une autre version de Muslim, elle précisa: Ô messager d'Allah, épouse ma sœur, Azza, fille d'Abu Sufyan. En conséquence, le premier hadith est authentique, si ce n'est la confusion de la part de l'un des narrateurs entre Azza et Umm Habiba dans les paroles: Je dispose de la plus belle des Arabes, Umm Habiba. C'est-à-dire qu'en réalité, il a dit: Ô messager d'Allah, je dispose de la plus belle des Arabes, Azza. Azza. Donc, comme avec cette conciliation entre ces paroles, ressort la réalité dans la question. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib. في صحيح مسلم أنها قالت يا رسول الله انكح أختي عزة بنت أبي سفيان. وعلى هذا فيصح الحديث الأول ويكون قد وقع الوهم من بعض الرواة في قوله وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة وإنما قال عزة فاشتبه على الراوي أو أنه قال الشيخ يعني ابنته فتوهم السامع أنها أم حبيبة إذ لم يعرفها سواها ولهذا النوع من الغلط شواهد كثيرة وقد أفردت سرد ذلك في جزء مفرد لهذا الحديث ولله الحمد والمنة. Autres explications ou autre explication, le cheikh qui a transmis le hadith a dit à ses élèves, c'est-à-dire sa fille, puis l'un des élèves crut à tort qu'il s'agissait d'Umm Habiba, puisqu'il ne connaissait que cette dernière. Ici, on est en train de parler des rapporteurs de hadith. C'est-à-dire que celui qui a rapporté ce hadith, le shir qui va rapporter le hadith à son élève pour qu'il l'apprenne et le mémorise de lui, ne connaissait que Umm Habiba. Donc, il a rajouté dans ce hadith, il a dit, cette fille, c'est Umm Habiba, alors qu'en réalité, on n'a pas parler d'elle, mais c'était plutôt Azza, puisqu'il ne connaissait que cette dernière. Or, ce type d'erreur dans la transmission de hadith est très fréquent. J'en ai d'ailleurs rassemblé certains exemples dans un ouvrage particulier. Allah soit loué. Ummu Habiba, qu'Allah l'agrée, mourut en l'an 44 selon Abu Ubaid, Al-Qasim ibn Sallam, tandis qu'Abu Bakr ibn Abi Khaythama évoque l'année 59, soit un an avant son frère Muawiyah. Puis au mois de Dhul-Qi'da de cette même année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa Maymouna bint al-Harith al-Hilaliya. Était-il en état de sacralisation à ce moment-là ou non? Les savants de l'islam divergent sur cette question. Maintenant, on passe à une autre épouse et une autre question. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Maymouna bint al-Harith, est-ce qu'il était en état de sacralisation sallallahu alayhi wa sallam ou non? Certains disent que oui, en se basant sur un hadith, d'autres disent que non. Vous allez voir, inshallah ta'ala, les argumentations de ces savants. Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Anas un hadith qui indique qu'il était muhrim, en état de sacralisation. L'état de sacralisation, c'est l'état dans lequel entre le pèlerin, celui qui accomplit le hajj ou la umra, pendant lequel il n'a pas le droit de faire certaines choses, parmi lesquelles justement le mariage. D'après Ibn Abbas, pardon, pas Anas. Or, le musulman n'est pas autorisé à se marier, comme l'indique ce hadith rapporté par Muslim, d'après Uthman, selon qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le muhrim ne peut ni se marier, ni être marié, ni faire une demande de mariage. Donc, c'est interdit pour celui qui fait, celui qui est en état de sacralisation, de demander quelqu'un en mariage. Aussi, certains affirment que pouvoir se marier en état de sacralisation ne fut donné qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont ce fut là l'une des particularités. Selon Abu Hanifa, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était bien muhrim, c'est-à-dire en état de sacralisation. Quant aux paroles rapportées par Uthman, elles n'indiquent pas selon lui que le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le mariage du muhrim est illicite, mais seulement qu'une telle union n'est pas souhaitable. Certains ont dit, le prophète s'est marié alors qu'il était muhrim, et c'était une particularité à lui. D'autres ont dit, non, le prophète ne s'est pas marié étant muhrim. D'autres ont dit, se marier étant muhrim n'est pas interdit, mais c'est simplement quelque chose qui n'est pas souhaitable. D'autres, en revanche, affirment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas en état de sacralisation, comme l'indique ce hadith rapporté par Muslim selon Maymouna elle-même, qui affirme que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'épousa et consomma le mariage avec elle après avoir quitté l'état de sacralisation. Or, la majorité des savants de l'islam donne la primauté à ces paroles de Maymouna sur celles d'Ibn Abbas, car étant directement concernée par ce récit, elle en est mieux informée que quiconque. La majorité Jumhur, la majorité des savants, ont retenu qu'elle a été épousée et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas pendant ce mariage en état de sacralisation, car c'est elle qui le raconte, c'est elle qui est épousée, elle est plus placée que, mieux placée que quiconque pour parler de cette question. Allahu a'lam. Il dit, donc je lis en français pour gagner du temps: de même, Abu Rafi', qui fut l'intermédiaire entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Maymouna dans ce mariage, informa, comme le rapporte l'imam Tirmidhi, que le messager à ce moment-là n'était pas muhrim. Par ailleurs, à la version d'Ibn Abbas, ont été rapportées des réponses qui n'ont pas leur place ici. Maymouna s'éteignit à Sarif, à l'endroit même où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de retour de la Umra dite Umratul Qadha, consomma son mariage avec elle sallallahu alayhi wa sallam. Trois dates sont avancées s'agissant sa mort: l'an 51, l'an 53 et l'an 70. C'est le fils de sa sœur, Abdullah ibn Abbas, qui dirigea la prière funèbre. Telles sont donc les 9 épouses, les 9 femmes épousées après Khadija, qu'il laissa à sa mort, comme l'indiquent des hadiths que l'on trouve dans les 2 recueils authentiques. C'est-à-dire les épouses dont on vient de parler, tous les noms que l'on vient d'entendre, sont 9 après Khadija. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, a laissé 9 épouses. Il a vu mourir 2, Khadija et Zainab bint Khuzayma, la première Zainab. Ceci fait l'objet de l'unanimité. Deuxièmement, quand il est mort, il avait 9 épouses vivantes. Et ceci aussi fait l'objet de l'unanimité. Sallallahu alayhi wa sallam. Telles sont donc les 9 épouses après Khadija qu'il laissa à sa mort, comme l'indiquent des hadiths que l'on trouve dans les 2 recueils authentiques. En revanche, selon une autre version que l'on trouve également dans le recueil d'Al-Bukhari, il laissa 11 femmes à sa mort. Toutefois, la première version est plus juste. Qatada ibn Di'ama affirme pour sa part que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam épousa 15 femmes, qu'il consomma le mariage avec 13 d'entre elles, eut jusqu'à 11 épouses à la fois et laissa 9 femmes à sa mort. En outre, l'érudit Abu Abdillah Muhammad ibn Abdul Wahid al-Maqdisi, dans son livre intitulé Al-Mukhtara, attribue le même avis à Anas. Tel est donc l'avis le plus répandu à ce sujet. Néanmoins, nous avons pu lire dans les livres de certains savants des dernières générations, parmi les tenants de l'école de l'imam Malik, notamment au chapitre consacré au mariage, que le nombre des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si l'on tient compte des mariages non consommés, dépasse la 20aine. Quant à ses concubines, parmi ses esclaves, elles furent au nombre de 2. La première est Maria l'égyptienne, la fille de Shem'un, et la deuxième, la mère d'Ibrahim, le fils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Maria fut offerte au prophète sallallahu alayhi wa sallam par le roi d'Égypte, en même temps que sa sœur Shirin, qu'un eunuque nommé Ma'bour et qu'une mule appelée Ad-Duldul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam offrit Shirin à Hassan ibn Thabit. Celle-ci donnera naissance à son fils Abdurrahman. Maria s'éteignit au mois de Muharram de l'an 16 de l'Hégire. À sa mort, Omar ibn Khattab se chargea personnellement de rassembler les gens afin qu'ils assistent à ses funérailles. Puis, Omar dirigea en personne la prière funèbre avant d'assister à son enterrement dans le cimetière de Al-Baqi'a. Sa seconde concubine parmi ses esclaves était Raihana bint Amr ou bint Zayd, qu'il avait choisi parmi les captifs de l'expédition contre les Bani Qurayza. Certains affirment qu'il l'épousa, alors que selon d'autres, elle ne fut que sa concubine avant d'être affranchie et de rejoindre sa famille. Certains savants contemporains affirment qu'il eut parmi ses esclaves 2 autres concubines, mais Allah et le Très-Haut en est mieux informé que quiconque. Donc, quand ils avaient les esclaves, il y avait des règles. Parmi ceux qui étaient régis, on va dire, ou bien légiférés ou permis, c'était que il avait le droit d'avoir des rapports avec ses esclaves, alayhi salatu wassalam. Et n'entendez pas par esclave ce qui est connu aujourd'hui. N'entendez pas par esclave ce qui est connu aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Mais avant, ils avaient ces esclaves et ils avaient le droit d'avoir des rapports et même des enfants avec elles. Ce fut le cas ici pour Shirin, la fille de Maria, l'égyptienne. Maria a eu Ibrahim avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Shirin a eu un enfant nommé Abdurrahman avec Hassan ibn Thabit, le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il dit certains des savants contemporains disent qu'il en avait 2 autres, il parle ici de l'imam ibn al-Qayyim rahimahullah, qui comme lui était un élève de l'imam Ibn Taymiyyah. Ibn al-Qayyim a cité dans son livre Zad al-Ma'ad ces deux que vous venez d'entendre, et il a aussi cité deux autres. Donc ce qui fait quatre, Wallahu Azza wa Jalla A'lam. Ensuite, il va citer le nom de ses esclaves affranchis. Les esclaves affranchis, ce sont ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner la liberté. Le prophète, il lui arrivait de prendre des esclaves pour les libérer. Et vous voyez, il y a beaucoup de hadiths, il y a aussi des versets qui font référence à la libération de l'esclave. Et petit à petit, les uns après les autres étaient libérés. Et certains d'entre eux devenaient des meilleurs parmi les sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Ici, il va citer les noms qu'on se contentera de lire de façon rapide, incha'Allahu ta'ala. Ces esclaves affranchis seront cités ici par ordre alphabétique. Les esclaves, donc quand il parle de l'ordre alphabétique, dans la langue arabe, en français, on ne sera pas dans l'ordre alphabétique. Les esclaves que posséda le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de les affranchir, et ce, selon ce que mentionne le grand érudit Abu al-Qasim ibn Asakir au début de son tarikh, c'est-à-dire son livre d'histoire, il va citer les noms des esclaves affranchis. Voyez. Premièrement, Ahmar dont le surnom était Abu Usayb. Ensuite, Aswad wa Aflah wa Anasa wa Ayman ibn Ummi Ayman wa Badham wa Thawban ibn Bujdud wa Hunayn wa Dhakwan wa Qila Tahman وقيل كيسان وقيل مروان وقيل مهران ورافع ورباح ورويفع وزيد بن بولاء وزيد بن حارثة. زيد بن حارثة il est très connu, vous vous souvenez, وزيد جد هلال بن يسار ابن زيد وسابق وسالم وسعيد وسفينة وسلمان الفارسي وسليم ويكنى بأبي كبشة ذكر في من شهد بدرا وصالح شقران ودميرة ابن أبي دميرة وعبيد الله بن أسلم وعبيد أيضا يكنى بأبي صفية وفضالة اليمني وقصير وكركرة بكسرهما ويقال بفتحهما ومابور القبطي ومدعم وميمون ونافع ونبيه وهرمز وهشام وواقد ووردان ويسار نوبي وأبو أثيلة وأبو بكرة وأبو الحمراء وأبو رافع واسمه أسلم فيما قيل وأبو عبيد. فهؤلاء الذين حررهم أبو زكريا. Tous les noms que vous venez d'entendre ont été cités par l'imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa amma ima'uhu, quant aux femmes parmi ces gens qu'il a libérés, fa umayma wa baraka ummu ayman wa hiya ummu usama ibn zayd wa khadra wa radwa wa rayhana wa salma wa hiya ummu rafi' imratu abi rafi' wa shirin wa ukhtuha mariya ummu ibrahim وميمونة بنت سعد وأم ضميرة وأم عياش. قال أبو زكريا رحمه الله ولم يكن ملكه لهؤلاء في زمن واحد بل في أوقات متفرقة. طيب. Donc vous venez d'entendre les noms, ça n'a pas besoin d'explication. Le chapitre suivant concerne, et on s'arrêtera sur celui-ci, ses serviteurs. Serviteurs, ce sont ceux qui étaient à son service parmi les compagnons, radiyallahu anhum. Wa qad iltazama jama'atun min as-sahabati radiyallahu anhum bi khidmatihi. Fa kama kana Abdullah ibn Mas'ud sahiban alayhi إذا قام ألبسه إياهما وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم. وكان المغيرة بن شعبة سيافا فوق رأسه، وعقبة بن عامر صاحب بغلته يقود به في الأسفار، وأنس بن مالك وربيعة بن كعب وبلال وذو مخبر، ويقال ذو مخمر ابن أخي النجاشي ملك الحبشة، ويقال ابن أخته وغيرهم. Nombre de compagnons se mirent au service du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, Abdullah ibn Mas'ud s'occupait de ses sandales. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait, il les lui mettait aux pieds. Et lorsqu'il s'asseyait, il les gardait dans ses bras jusqu'à ce qu'il se lève. Al-Mughira ibn Shu'ba, quant à lui, gardait toujours un sabre au-dessus de la tête du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour le protéger. Uqba ibn Amir, pour sa part, était en charge de la mule que montait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il conduisait lors de ses déplacements. Parmi les compagnons qui étaient à son service se trouvait également Anas ibn Malik. Pendant combien de temps Anas ibn Malik? Pendant 10 ans. Rabi'a ibn Ka'b, Bilal, Dhu Mikhbar, appelé également Mikhmar, le fils du frère ou de la sœur du Négus, au roi d'Abyssinie. On s'arrête ici, inshallah ta'ala. Vous voyez qu'on est en train de passer par des chapitres qui demandent un peu de la patience. Qui demandent un peu de la patience, mais il y a un khair dedans, il y a un bien, il y a un intérêt. Inshallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayka.